Moi, j'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 18 ans. On peut penser qu'à 18 ans, on devrait avoir un peu toutes les raisons de vouloir vivre. Et personnellement, je pensais régulièrement mettre fin à mes jours. Je pensais que la vie dans ce monde ne valait pas la peine d'être vécue. Je regardais le monde autour de moi et je voyais que les rapports entre les gens étaient surtout basés sur l'égoïsme et l'hypocrisie. Alors ça, c'est une constatation assez simple à faire. La deuxième constatation, ça a été de voir que cet égoïsme et cette hypocrisie régnaient en moi également. Je crois que je faisais partie de ces gens qui ont toujours eu l'impression de s'être trompés de planète, vous savez. Et j'avais mal dans mon cœur et d'où venaient ces souffrances? Vous savez, mes parents se sont toujours bien occupés de moi. Je crois que c'est pas dans ce sens qu'il faut regarder. Il y avait simplement un grand vide que je n'arrivais pas à combler. D'ailleurs, le jour où j'ai lu les pensées de Pascal, où il est question d'un vide qui est dans le cœur des hommes et ce vide est en forme de Dieu, ça m'a frappé. Parce que c'était l'état de mon cœur. Donc je ne pense pas qu'il faut, pour pouvoir chercher Dieu, obligatoirement souffrir dans la vie. C'est bon, imagine qu'il faut avoir le témoignage qui casse tout. Hein. Il y a des gens qui ont honte de témoigner maintenant parce qu'ils n'ont jamais dévalisé de banque. Or, qui que nous soyons, nous avons besoin de Dieu. Et nous avons besoin de le rencontrer à la personne de Jésus-Christ. Dieu a mis dans le cœur de l'homme, nous dit l'Écriture, la pensée de l'éternité. Eh bien, ce monde qui m'entourait, je me suis rendu compte qu'il était mal en point. Alors, je suis passé pendant une période où je me suis dit, ben, il a besoin de héros. Et donc, je serai un de ces héros, aux côtés de Superman, Zorro, Ivanhoe, et il y aura aussi Claude Payan. Et l'idée d'aider le monde et d'orienter sa vie dans ce sens était pour moi indissociable de la notion de Dieu. Et vers l'âge de 16 ans, je suis même passé par une période où je pensais... sérieusement, devenir prêtre, parce que c'est la seule idée qu'on avait à l'époque de servir Dieu. Et moi, je crois que Dieu met dans notre cœur, déjà lorsque nous sommes enfants, sa pensée et l'appel. Simplement, nous l'exprimons maladroitement, avec notre intelligence. Et je m'y fais à ce projet à cause de deux choses qui me travaillaient sérieusement. C'est que les prêtres ne pouvaient pas se marier. Et moi, j'avais bien l'intention un jour de rencontrer la femme de ma vie. Et par ailleurs, je ne trouvais pas dans cette église-là un Dieu vivant. Je rejetais donc l'idée d'être prêtre, ainsi que l'église en question, et je laissais en suspens mon avenir avec Dieu, et j'essayais de m'intégrer au mieux dans cette société. J'étais un jeune homme tourmenté intérieurement, rebelle à toute forme d'autorité, allergique à tout ce qui portait veston et cravate. Et les années passant, je me suis aperçu que devenir héros aux côtés de Zorro et de Superman, c'était râpé, hein. Et donc de nouveaux héros apparurent dans ma vie, ou plus précisément de nouvelles idoles, les Rolling Stones, les Beatles. Et ils ont commencé à orner mes murs, à être le sujet de mes conversations. Et j'avais entendu dire toute mon enfance qu'il fallait faire comme tout le monde. Je crois que cette parole avait dû particulièrement m'irriter et j'en vins bien vite à penser, à agir de toutes les manières, sauf comme tout le monde. En fait, je venais de découvrir aussi ma nouvelle vocation, et même un peuple, s'était décidé, je serais un hippie. À la grande tristesse de mes parents. Mon père était musicien, mon grand-père était musicien, et mon oreille était très sensible à ce monde d'hypersensible qui est celui de la musique. Et comme l'accordéon dont jouait mon père n'a pas eu un effet de révélation sur ma vie, je me suis tourné vers un instrument merveilleux qui est la guitare. Donc, faute de devenir un héros tout court, j'allais donc devenir un guitar hero. Et faute de pouvoir changer ce monde, eh bien, j'allais participer à le pourrir à ma humble mesure. Et c'est comme ça qu'après avoir quitté l'école, eh bien, je suis devenu musicien professionnel et je me déplaçais tous les week-ends avec un grand bus, avec tout un groupe musical où nous chantions dans les fêtes de village ou dans les boîtes de nuit et ça durait pendant plusieurs années, comme cela. Je me retrouvais donc musicien professionnel, en costume de soie rose, pattes d'éléphant et papillon à l'époque. Et voilà, donc j'ai pensé vous faire la surprise en venant ici, mais je n'ai plus le costume. Alors, ce groupe signifiait gagner de l'argent facilement, voyager, avoir des filles sans forcer. Pour moi, la vie allait donc pleinement commencer. Et puis voilà que quelques graines de sable sont venues se mettre dans les rouages de cette nouvelle vie qui s'annonçait. Dans le village du sud de la France où j'habitais depuis quelque temps, des amis et moi-même, nous commencions à nous poser quelques questions. Et parmi ces questions, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que la Bible est vraiment la parole de Dieu? Alors, on avait discuté avec des témoins de Jéhovah. Alors, la Bible continuait à nous intéresser, mais du côté des témoins de Jéhovah, ça sentait un peu le roussi. Donc, on a abandonné les contacts que nous avions avec eux, mais nous étions toujours intéressés à ce qu'il y ait des réponses logiques aux questions que nous nous posions. Et nous entendions parler d'un jeune homme qui, dans le village, se promenait un peu partout, avait des inscriptions sur son blouson, « Jésus t'aime, Jésus va revenir ». C'était un peu le fou du village. Et on a dit, on va inviter le fou, il va nous exprimer un peu sa foi, et puis si c'est pas intéressant, on n'aura pas perdu la soirée, on se sera moqué de lui. Et puis il est venu, il nous a donné son témoignage, c'était un ancien gangster, et il avait vraiment été changé par la puissance de Jésus-Christ. Et on s'est rendu compte que le fou, il n'était pas si fou que ça. Et en fait, qu'il était beaucoup plus sensé que nous, jeunes gens, qui ne sachions plus quoi faire pour passer notre temps et nous distraire. Et pendant qu'il parlait, je me souviens que je n'arrêtais pas de le couper. J'arrêtais pas de sortir des plaisanteries. J'étais particulièrement excité ce soir-là, disons animé, je dirais aujourd'hui. Si bien qu'il a dû se dire, s'il y a quelqu'un qui n'est pas touché, c'est vraiment le petit teigneux là-bas. Il est en train de me saper ma soirée. Il nous a parlé de l'amour de Dieu, du sacrifice de Jésus pour nos fautes, d'un Dieu qui pouvait encore sauver, guérir, un Dieu vivant, et le Dieu dont j'avais besoin. On s'est aperçu donc que cet homme était beaucoup plus équilibré que nous, et j'ai été touché au plus profond de moi, car ce que je reflétais dans mon comportement orgueilleux, c'était tout le contraire de ce qui se passait dans mon cœur. Il y avait une lutte, un combat spirituel pour mon âme. Et c'est vrai que ce jeune homme, il nous a pas parlé avec de grandes démonstrations pour nous prouver que Dieu existait. Hein. Non, c'était simplement le témoignage rendu, et d'où l'importance de cette matinée, il y a une puissance dans le témoignage. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il y a une puissance dans la vérité, aussi naïvement, je dirais, qu'elle puisse être exprimée parfois. Et j'ai cru en Jésus ce soir-là. Et en rentrant chez moi, je lui ai donné ma vie. Ça n'a pas été plus compliqué. Je ne suis pas avancé à un appel classique évangélique. J'ai pas récité une prière. J'ai fait comme Pierre dans le bateau. Je me suis jeté aux pieds de Jésus. J'ai été transformé. J'ai cru en Christ ce soir-là. Les expériences des gens concernant leur conversion sont diverses, mais pour moi, c'est ainsi que ça s'est passé. J'ai entendu le message et quelque chose m'a dit au plus profond de moi, c'est ça, c'est dont tu as besoin, c'est la vérité. Et tu peux y aller sans crainte, plus besoin de chercher ailleurs. C'est comme si j'attendais depuis des années derrière un rideau et ce soir-là, le rideau, il avait été tiré. Et le Saint-Esprit, seul bibliquement capable de convaincre, venait de passer par là. Quelle joie qui m'envahit. J'avais rencontré Dieu en la personne de son fils Jésus-Christ qui avait offert sa vie pour mes péchés. Dieu m'aimait, j'étais précieux pour lui. Quelle révélation! Il avait un plan pour moi, un plan pour ma vie, une destinée. Donc après cela, je ne pouvais pas m'empêcher de parler de Jésus à tous mes amis, à mes parents, à tout ce que je rencontrais. Je me rappelle mon père un soir, après lui avoir témoigné, je me rappelle rentrer chez moi et le trouver en larmes. C'était un homme qui vivait dans les adultères. Et ce soir-là, il était saisi de conviction de péché, il était en train de pleurer. Et il me disait, je suis perdu, je suis perdu, je suis perdu, je vais à l'enfer. Et il acceptait Jésus-Christ comme son sauveur. Je crois que ça, c'est un travail que seul le Saint-Esprit peut faire. Il utilise le support de notre témoignage, mais après, c'est lui qui convainc. Moi qui ne trouvais aucune raison profonde pour vouloir vivre dans ce monde, soudain je les avais toutes. Depuis des années aussi, j'étais malade du foie. Je passais de crise de foie en crise de foie. Je passais à toutes les couleurs sauf normal. Parce que j'étais à l'école, mes amis m'appelaient Jonas parce que j'étais tout jaune. Si je mangeais 4 carreaux de chocolat, hop, une crise de foie. Si je mangeais 2 œufs, hop, une crise de foie. Et voilà qu'ayant accepté le Seigneur comme sauveur, je n'ai plus jamais eu une seule crise de foi. Depuis plus de 30 ans. Donc, j'ai découvert le Dieu qui sauve, j'ai aussi découvert le Dieu qui guérit. Un Dieu responsable qui veut s'occuper de tout notre être. L'esprit, l'âme et le corps. Si j'avais rencontré le Seigneur, je devais rencontrer aussi également par la suite tout un milieu religieux qui était loin de toujours correspondre à la noblesse du message que j'avais embrassé. Ça serait tout un autre témoignage à donner. Et je n'ai pas trop le temps pour m'étendre là-dessus ce matin. J'ai découvert aussi que Dieu est un Dieu qui parle, avec qui on peut avoir une relation et qui veut nous diriger dans la vie pour nous dire ce qu'il attend de nous, pour nous dire avec quelle personne on doit se marier, pour nous dire dans quelle direction on doit aller. Alors que j'étais en train de travailler dans la ville de Marseille, j'ai entendu cette voix un jour qui m'a tout simplement dit « Pars d'ici, il va habiter à Toulon. » Ah oui ? Le seul problème, c'est que j'étais passé à Toulon à peu près 2 fois dans ma vie et je m'étais pas vraiment arrêté. Donc je ne connaissais pas du tout cette ville, mais je commençais à être habitué à cette voix du Seigneur et l'importance de lui obéir. Et c'est là que je devais rencontrer une jeune anglaise qui passait par là, que j'ai nommée Julia Payan, avec qui je vis jusqu'à ce jour, avec qui nous sommes mariés, je vous rassure, et nous avons 4 enfants. Et je vais lui donner le micro pour la suite et je reviendrai tout à l'heure.
J'aime bien entendre mon mari parler de ses débuts parce qu'en fait, nous croyons fermement dans cette idée que Dieu il a vraiment un destiné pour chacun de nous. Et même avant notre naissance, eh bien, il a conçu des projets et il désire qu'on puisse les vivre pleinement. Et il met en place dans nos vies des temps et des circonstances qui va nous amener à le rencontrer. Et ensuite, il va mettre tout en œuvre pour nous si on saisit les occasions d'entrer dedans et d'avoir une vie remplie d'aventures et d'avoir une vie heureuse et prospère. Et c'est ce que je crois que c'est sa volonté pour chacun de nous. Et malgré tout ce qu'on peut vivre avant, eh bien, il peut tourner n'importe quelle situation, n'importe quel début de vie, et il peut faire une vie de succès. Il peut nous rendre vraiment heureux dans la vie. Bon, vous avez discerné que j'ai un petit accent. Je suis anglaise d'origine. Mes parents aussi, c'est normal. Je suis née en Angleterre en 57, d'une famille où mon père, il était médecin. Et on avait une vie confortable. J'étais le plus jeune de 3 enfants. Et à l'âge de 10 ans, nous avons quitté l'Angleterre pour migrer aux États-Unis. J'étais une petite fille. Bon, il paraît que j'étais quand même assez remuante ou assez vif quand j'étais jeune, mais j'étais quand même assez timide aussi. Et quand nous avons quitté l'Angleterre, nous sommes arrivés en Amérique où la vie était tellement différente, le souci était tellement différent. Eh bien, je me suis trouvée comme une jeune plante qui était arrachée de sa terre habituelle et on essaie de le planter ailleurs mais dans une terre qui ne le ressemble pas. Alors il faut un moment d'adaptation et ces moments-là sont très douloureux, surtout quand on est au début de l'adolescence. Et pour moi c'était une grande souffrance car les différences que ma sœur et moi avaient par rapport aux jeunes Américains au lycée, c'était vraiment très difficile de s'adapter. Nous, on était là avec nos blousons, le jupe plissée, les petites chaussettes blanches, et tout le monde là-bas était en basket, blue jean, et qui était au courant de la vie à un très jeune âge. Et nous, on était naïfs, mais alors c'était quelque chose. Et donc, il nous a pris un petit peu comme un bouc émissaire à l'école et un super bon sujet pour le moquerie et les autres choses. Il fallait du temps pour s'adapter. Et quand on est adolescent, eh bien, on réagit par des manières différentes en fonction de notre personnalité. Et ma sœur, elle s'est réfugiée dans les études. Elle a tout fait pour plaire à nos parents parce qu'à l'école, elle était malheureuse. On se moquait beaucoup d'elle. Donc, elle se réfugiait un peu d'avoir un succès dans les choses académique. Moi, de mon côté, j'ai décidé que j'allais faire le contraire et que j'allais tout faire pour être acceptée par mon entourage et par les jeunes de mon âge. Et tant pis si mes parents, ils pouvaient pas me comprendre. Dans ma maison, mes parents, ils étaient très introvertis. C'était une famille assez réservée. J'ai grandi avec la musique classique. J'ai fait 7 ans de violoncelle. Et on jouait ensemble en quintette avec violon, piano, etc. On dirait peut-être pas aujourd'hui, mais quelque part, c'était des bons fondements. Mais je me rendais pas compte quand j'étais adolescent et j'avais envie de m'éloigner le plus possible de cette famille qui me semblait imposer des tas de règles et des choses impossibles à vivre. Le bar des attentes était placé assez haut et en voyant que je n'arrivais pas, alors j'ai décidé de tout casser. Donc j'ai fait pleurer mes parents. Et j'ai décidé de devenir un peu rebelle. Mais j'étais une fausse rebelle. À l'intérieur, je ne voulais pas les faire du mal. Mais j'étais tellement mal dans ma peau. Et j'étais tellement perdue dans mon identité. Je savais pas, je me sentais pas vraiment chez moi là-bas. Mais j'ai essayé de faire semblant. Donc j'avais une grande carapace où je faisais rire tout le monde. Et j'avais un comportement très exubérant. Mais en fait, qui ressemblait pas à le vrai moi à l'intérieur. Alors, à cause de cette mal-être, ça m'a mené sur pas mal des chemins rocailleux, on peut dire. Mais j'avais au fond de moi un désir sincère de trouver mon créateur. J'ai toujours été très attachée à la nature. Et je voyais un avenir quand j'étais jeune, peut-être de m'attacher style Greenpeace ou de défendre la nature face à l'homme qui détruisait tout. C'était les années 70 et j'avais beaucoup de projets dans ma tête. Mais j'aimais la nature, la création profondément et je cherchais Dieu. Je peux dire que j'ai cherché Dieu sincèrement. Et heureusement, lui aussi, il avait les mêmes projets, il me cherchait aussi. Et sur ce chemin, vers l'âge de assez jeune en fait, 14 ans, on a ce qu'on appelle dans l'église épiscopale, parce que mes parents ils étaient anglicanes d'origine, ils avaient ce qu'on appelle la confirmation, comme dans les églises catholiques, c'est confirmation, voilà. Et donc j'ai fait des cours et à la fin, ma mère m'a dit. Alors, ça voulait dire une grande fête, pleine de cadeaux et tout ça. Mais j'avais compris ce qu'ils m'ont dit, mais je n'ai pas rencontré Jésus. Et c'était une question de faire une sorte d'alliance à vie, de dire que pour le reste de ma vie, j'allais être comme cela. J'allais être chrétienne, j'allais avoir cette étiquette-là. Et moi, j'ai dit, mais je connais pas le bonhomme. J'ai lu le livre, mais j'ai pas compris. C'est bien beau, mais je n'arrivais pas à m'identifier avec cela. Donc, j'ai dit, mais je fais pas ces sortes d'engagements. Moi, je vais faire mon propre chemin. Alors, ma mère, qui était une femme très sage, elle m'a embrassée, elle m'a dit, fais ton chemin, tu trouveras certainement le Seigneur quelque part, parce que c'est une femme de foi. Et effectivement, je me rappelle un incident où j'étais en vacances dans le Wisconsin, et c'était le dernier jour, on se préparait pour partir et sur mon chemin, je trouve un monsieur qui se baladait avec un chien blanc, super beau chien. Alors, ah, il est beau votre chien, monsieur. Et il me regarde, il me dit, toi, tu es chrétienne, toi. Et moi, je dis, ah non, pas du tout, parce qu'à l'époque, surtout pas, je voulais pas avoir une étiquette. Et il disait, mais c'est bizarre, j'aurais cru que tu avais la foi. Je dis, mais il me connaît pas, ce bonhomme. Qu'est-ce qui lui donne le droit de me parler comme ça? Mais ensuite, il m'a dit, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu le trouveras. Et je dis, bon, ça c'est facile. N'importe qui peut me dire une chose pareille. Mais ensuite, il a continué. Il a dit, et tu le trouveras. Le Seigneur, il te donnera un mari fidèle pour ta vie. Et tu serviras Dieu dans ta vie. Je l'ai regardé, j'ai pris un petit pas de recul, j'ai regardé le chien, j'ai dit, il est vraiment beau votre chien, au revoir monsieur. Et je suis partie. Mais c'est étrange, je ne sais pas qui c'était ce monsieur. Est-ce que c'était un envoyé, certainement un envoyé de Dieu, peut-être un ange, je ne sais pas. Si peut-être parfois dans votre vie, dans votre jeunesse, vous rencontrez des personnes qui disent des choses, eh bien on peut avoir, comme mon mari, un à l'extérieur, on donne l'impression de tout rejeter, mais ce sont des semences qui vont au plus profond de nous et avec le temps qui germent et qui portent du fruit. Et j'essaie d'oublier ce qu'il m'a dit, ce monsieur, mais ce qu'il m'a dit m'a poursuivi et qui m'a gardé le long de mon chemin. Donc avec les années, j'ai commencé à chercher le Seigneur dans toutes sortes de philosophies, de religions. J'étais très attirée par tout ce qui était mystique, donc les religions hindoues, enfin tout le reste. Et je les étudiais parce que j'avais un cœur sincère et je voulais connaître qui était Dieu. Et finalement, pour terminer, j'ai décidé de partir de chez moi à 19 ans. J'ai pris mon sac à dos, ma guitare, et j'ai dit, maman, je pars, je veux trouver ce que je cherche. Alors j'ai pris la route. J'ai décidé de faire le tour du monde toute seule. Bon, ils ont d'autres projets dans la vie. Le mien, c'était légèrement ambitieuse, peut-être. Mais je me suis dit, ici, si je reste ici, je ne trouverai pas ce que je cherche. J'étais tellement perdue de mon identité, il fallait que quelque chose de radical arrive. Alors parfois on prend des mauvais choix, mais heureusement Dieu nous veille, il nous surveille et il part avec nous. Même si on part à l'extrémité de la terre, eh bien il ne nous laisse pas partir seul, parce qu'il veille sur nous. J'avais une maman à la maison qui priait pour moi, Dieu merci. Mais en tout cas, moi, je voulais m'éloigner au plus possible de cette famille qui avait de telles attentes et que je me sentais incapable à être à l'auteur de ce qu'ils attendaient de moi. Alors donc, j'ai cherché trois choses. J'ai cherché Dieu, le Créateur. J'ai cherché moi, ce qui était pas mal. Et j'ai cherché un pays, c'est un peu utopique, vous allez me dire, mais un pays où on n'allait plus me juger par mon apparence, parce que j'étais moche. En fait, j'étais pas moche, mais je me sentais moche. Et peu importe, maintenant je regarde des photos de moi à cet âge-là, je me dis, oh, j'étais pas mal finalement. Mais alors, c'est bizarre, parce que quand on a un peu de recul, eh bien, on se voit tout à fait différemment. Mais alors, dans ma peau, comme j'étais à l'époque, je me sentais, mais c'est une catastrophe ambulante. Et c'est bizarre, ça. Combien la vie ne nous reflète pas justement qui on est vraiment à l'intérieur. On ne peut pas attendre que notre entourage ou nous-mêmes, quand on regarde dans la glace, pour refléter quelque chose de juste. On va ou se regarder et on va se trouver trop beau, ou trop laid. Mais si on veut un regard juste qui en est vraiment, c'est que Dieu qui peut révéler ces choses dans notre vie. Et alors, j'ai quitté l'Amérique, je suis revenue en Europe, en espérant peut-être de retrouver un peu mes racines, peut-être quelque part. J'avais 19 ans, je suis passée par l'Amsterdam, j'ai touché un peu des choses, un peu de drogue, mais rien de trop méchant. J'ai essayé le mieux que j'ai pu d'être une bonne hippie, enfin fidèle dans toutes les traditions. Je faisais de l'autostop, il fallait que je saute de la voiture pendant le temps, parce que de temps en temps, parce que je me trouvais parfois dans des situations plus que pas claires. Mais tout le long de mon chemin, je sentais que le Seigneur veillait sur moi et me protégeait. J'ai eu ma vie menacée plusieurs fois. Je me suis sortie aussi parfois avec quelques bleus. J'ai vécu certaines choses que je ne suis pas fière aujourd'hui. Mais ces choses sont arrivées à quelqu'un qui n'est pas moi aujourd'hui. Vous comprenez? Et à un moment donné, il faut qu'on se détache d'une réalité qui n'est pas la nôtre. Ce monde, il est cruel. Et il veut nous briser. Et il veut nous détruire. C'est juste, c'est comme ça. Mais Dieu, il a des projets de bonheur, de vie et de prospérité pour nous. Alors donc, je fais Amsterdam, comme beaucoup de jeunes gens. J'ai fait un peu Paris, mais enfin, j'ai passé Barcelone. Et je me suis, j'ai terminé dans les îles Baléares, où je trouvais un petit boulot sur une voilier. J'ai dit, chouette, j'aime la mer, le soleil. J'étais des milliers de kilomètres de ma famille. Ça faisait plusieurs mois, je n'avais pas écrit. J'ai dit, je suis, comme on dit, peinard, impeccable. J'ai rien à faire. Il fallait que je fasse un peu de cuisine pour un monsieur qui voulait amener un peu son bateau à droite et à gauche. Et je dis, ça, c'est la vie. Mais en fait, au-dedans de moi, je n'étais pas bien. Et voilà, on a quitté, on a fait Ibiza, Mallorca, Menorca, les petites îles. Et on est parti pour la Côte d'Azur. Mais voilà, il y avait une tempête. Alors, une petite tempête qui est devenue une grande tempête. Et petite Julia, d'une bonne famille, qui n'avait vraiment pas des pieds marins, se trouvait sur un bateau qui était chaviré, mais d'une manière déconcertante. Et d'un coup, I think, c'était plus un peu des jolies vagues de la Méditerranée avec des super poissons. C'était d'un coup un orage pleine nuit avec un vent terrible où on a perdu contact radio, on a perdu toute assurance surtout. Le bar de bateau s'est brisé en deux et on se trouvait dans une situation très précaire. J'avais pas mangé pendant deux, parce qu'il a duré quand même un moment. Pendant un jour et demi, je n'ai pas mangé. J'avais faim, j'étais trempée, j'étais dans la cale, avec une main sur le plafond, les deux pieds qui essayaient de caler, et le bateau qui faisait comme ça. Alors, le monsieur m'a dit, mais c'est pas grave, parce que quelque part, le bateau était construit avec un coque en fonte ou en métal très lourd. Il a dit, même s'il se retourne, il est construit pour qu'il remonte. J'ai dit, oui, c'est super. Mais il risque de vider de son personnel, voilà. Et ça m'a rassuré pas énormément. Alors j'ai essayé de faire une chose, c'est de fermer mes yeux et de faire semblant. J'ai dit non, je suis dans un cinéma bien confortablement, je suis en train de voir un film d'horreur et je suis quelque part en Amérique, pas loin de mes parents. Je vais ouvrir mes yeux, ils vont passer avec des glaces et des esquimaux. Mais alors je faisais comme ça et ce n'était pas le cas, j'étais bien dedans et j'avais le peur de ma vie. Alors Dieu, il a cette chic de nous amener dans notre vie à un point écuminant où d'un coup on est dépouillé de tout. Alors ça dépend de qui vous êtes, votre personnalité, mais il sait exactement, c'est fou, hein, il sait exactement ce qu'il faut pour chacun de nous, pour nous amener à un point de décision. Parfois c'est la maladie, parfois c'est un accident, parfois c'est la perte de quelqu'un qu'on aime. Mais il fait une sorte qu'à un moment donné, on est devant une décision où on est dépouillé de tout. Et dans ces moments-là, eh bien, toute notre éducation, toute notre force physique, si on est fort, tous nos sens psychiques ou mystiques, tout ce qu'on aura pu acquis dans nos recherches mystiques, il nous sert à rien. On est là et on crie. Et on a peur de perdre notre vie. Et d'un coup, c'est fou qu'on peut flirter avec la mort et on rigole quand on est jeune, jusqu'au jour qu'on est face à une porte de non-retour. Et là, qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Et vraiment, cet instant, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Dieu, je veux pas mourir. Mes parents ne savent même pas où je suis. Et toute leur vie vont passer en disant, peut-être elle vit quelque part, ou peut-être elle est morte. Laisse-moi, moi, entrer chez moi pour dire que je suis vivant. Parce que je savais combien il m'aimait. Et je savais que je l'avais pas été vraiment fidèle dans cette expression de respect et d'amour que j'avais à leur égard. Alors à cet instant, je crie, j'ai dit, Dieu, si tu existes, fais quelque chose, parce que j'ai peur et je veux pas mourir. Et dans ce petit bateau perdu dans la Méditerranée, entre Menorca et Marseille, eh bien voilà, j'entends la voix de Dieu qui me parle. C'est une voix audible, audible. C'était vraiment bizarre, un peu comme dans les films, mais c'était pour du vrai. Et il me dit, Julien, n'aie pas peur, tu vas pas mourir. J'ai du travail pour toi. Et même si je le connaissais mal, ce que je veux dire, c'est que Dieu il ne parle pas directement aux personnes, à que ceux qui se disent chrétiens. Il parle à n'importe qui crie à lui. On peut être de n'importe quelle croyance, on peut avoir n'importe quel passé, on peut être dans une vie autant décousue qu'on peut imaginer, mais Dieu, il est tout près quand même. Il suffit qu'on lui adresse la parole et on lui parle sincèrement du cœur. Et c'est bizarre parce que cet instant, je sentis cette calme qui venait en moi. Et c'est fou que ça fait du bien. Et je ne savais même pas s'il fallait que j'entre à la nage, mais je savais que j'allais vivre. Et peu de temps après, peut-être une heure, eh bien, le calme est revenu. La pluie s'arrêta, le vent s'arrêta. Et on s'est trouvé dans un bateau cassé, mais vivant. Et ce monsieur, il connaissait quelqu'un qui pourrait réparer le bateau dans une ville qui s'appelait Toulon. Bizarre, hein? Vous me voyez venir. Et donc, il fallait 3 jours pour amener le bateau de Marseille. On a fait toutes les calanques, c'était magnifique, le soleil brillait. Et moi, j'étais heureuse de vivre. Je connaissais pas encore le Seigneur. Mais c'est bizarre, quelque chose m'est arrivé pendant cette nuit-là. Quelque chose est cassé en moi, peut-être un peu ma fierté, cet sentiment de dire c'est ma vie, je vis ce que je veux. Et ben d'un coup j'avais renoncé à cela. Je disais j'ai besoin de quelqu'un pour diriger ma vie. Et on a pris 3 jours avec un morceau de bois coincé dans le gouvernail jusqu'au port de Toulon. Alors on est, si vous pouvez imaginer, l'été en 77, mois d'août, deuxième semaine de mois d'août, je me rappelle très bien. Et quand j'ai posé mes pieds, ben c'était extraordinaire. Mais pourquoi Toulon? Eh bien, on a resté quelques jours, et sur le port, il y avait quelques jeunes gens qui faisaient de la musique. Alors, c'était assez chouette, il y avait ceux qui jouaient un peu les guitares, il y avait des jeunes gens assez poilus. Ah, mais ils avaient un look super. Mais de toute façon, moi, j'aurais pas été attirée par autre chose. Et ils faisaient du jazz New Orleans. Donc, la clarinette, le banjo, le contrebasse, la guitare. Et ça swingait super. Ils faisaient une fric pas possible d'ailleurs. Gagnaient beaucoup d'argent. Et moi, pour gagner un peu de sous, pour continuer ma voyage, j'avais d'ailleurs décidé d'entrer tout de suite à la maison pour dire à mes parents combien je les appréciais, au moins ça. Et j'ai joué un peu ma guitare devant les terrasses, gling gling, folk américain à l'époque. Et voilà, on se rencontre avec ce jeune groupe, et c'était mon mari et ses amis. Et vraiment, j'ai réalisé, quand je l'ai rencontré, je peux pas dire que c'était l'amour au premier regard, mais il était beau quand même. Je sais pas. Parfois, enfin, parce que, oui, poilu. Non. Il avait ce regard, je sais pas, je disais, ouh, celui-là, il m'intéresse. Et il paraît qu'il faisait un peu la même réflexion. Et voilà, peu de temps après, ben, vraiment, on a réalisé combien on s'aimait. Et je me suis rendu compte avec les temps, les années qu'ils ont suivi, combien Dieu y fait des choses de merveille. Plusieurs fois dans le Nouveau Testament, il dit, Jésus, tout ce qu'il faisait, il faisait une merveille. Et il a fait quelque chose dans ma vie extraordinaire. Il m'a amené au bon moment, au bon endroit. Et il a pris mon cœur, il a su faire exactement ce qu'il fallait pour que je sois prêt à le recevoir. Claude, il était converti, il était déjà un chrétien. Et il a parlé de Jésus. Et au début, j'ai dit, mais j'ai pas fait des milliers de kilomètres. Surtout que en Amérique, au lycée, j'habitais quelques kilomètres de l'université de Billy Graham. Et pourtant, je troublais un peu leur réunion à l'époque. Ils me mettaient dehors parce que je faisais le pitre. Et je disais, mais je suis pas venue jusqu'ici pour accepter Jésus. Et si. Mais il fallait que mon cœur et ma fierté soient brisés. Et vraiment, j'ai accepté Jésus. Et vous, c'est une chose extraordinaire. Parce que le jour que je donnais mon cœur à lui, il a dit, aujourd'hui, tu vas enlever ta masque. Tu n'as plus besoin de faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Et tu vas découvrir qui je suis en toi et qui tu es en moi. Et c'était le début de notre grande aventure. Et vous savez, j'ai trouvé mon Dieu. J'ai trouvé mon Seigneur. J'ai trouvé moi-même. Et j'ai trouvé même un pays qui allait m'accepter tel que je suis. C'était pas la France. C'était le peuple de Dieu. Et j'ai décidé à partir de là, eh ben, je vais être quelqu'un d'autre. Dieu, il a bouleversé ma vie. On habite toujours à Toulon, 4 enfants plus tard. Et, viens, Claude, un petit peu. Mais c'est quelque chose parce que Dieu, il sait exactement ce qu'il faut faire dans la vie de chacun pour nous amener jusqu'à lui. C'est à nous de l'accepter. Mais il sait faire des choses une merveille. J'étais réconciliée avec ma famille et maintenant ils sont tous convertis. Et je loue Dieu pour cela. Bon, le prochain chapitre, je te le rends. Tu veux qu'on lit le psaume? Alors, quelques années plus tard, on donnait notre témoignage aux hommes d'affaires de Plein Évangile. C'est une organisation qui donne beaucoup de témoignages parmi un autre milieu que le milieu hippie. On s'est changé légèrement depuis. Et un jour, quelqu'un a dit, mais tu sais que ton témoignage se trouve dans la Bible? J'ai dit, ah bon, c'est vrai? Et voilà, il ouvre la Bible au psaume 107 et il lit à partir de verset 23. Tu veux le lire pour moi, Claude?
Alors, le psaume 107, verset 23. Donc, on se rend compte que le témoignage de Julia était déjà écrit depuis bien longtemps. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer, les flots. Ils montaient vers les cieux et ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger, éperdue. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de toutes leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Avec Julien, nous sommes partis lorsque nous sommes mariés, habiter à peu près un an et demi aux États-Unis. Lorsqu'on était partis, c'était pour habiter là-bas. Et puis, au bout de quelques temps, nous avons recherché la face de Dieu dans la prière, dans le jeûne. Le Seigneur nous a clairement dit encore cette voix qui voulait qu'on soit en France. Donc, nous avons vraiment obéi au Seigneur. On n'est pas revenu en France parce qu'on avait envie de revenir en France, mais vraiment, on a obéi à cette voix, comme quoi il y avait un travail en France. Et c'est vrai que nous nous rendons compte que les anglophones ont beaucoup de prédicateurs, beaucoup de livres, beaucoup de cassettes, beaucoup de chanteurs, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Mais il y a vraiment un besoin parmi les francophones. Donc Dieu nous a donné vraiment un cœur pour toucher la francophonie. Nous avons commencé à chanter des chants de notre composition. Alors pendant des années, j'avais écrit des chants que je mettais dans un classeur et puis mon seul public, c'était mon épouse. Alors je la suivais partout, dans la cuisine, je lui chantais les chants. Et puis, des portes ont commencé à s'ouvrir. Et là aussi, Dieu, dans notre destinée, veut mettre sur notre chemin les personnes qu'il faut. Et un jour que nous chantions dans les rues à Aix-en-Provence, un homme s'est arrêté, puis il a écouté, et lui qui était inconverti nous a donné ce témoignage. Écoutez, je ne sais pas pourquoi, je ne fais ça pour personne, j'ai un studio, en général j'enregistre des gens qui payent. Vous, je vous propose de faire une cassette, vous n'aurez rien à payer. Lorsque je vous écoutais, mon cœur a été touché. Le témoignage de quelqu'un d'inconverti. Et à partir de là, pendant des années, nous avons enregistré des cassettes et des CD sans avoir à sortir un seul centime. Et Dieu peut utiliser qui il veut. Amen. Cet homme, entre-temps, s'est converti. Il a été vraiment un sujet de bénédiction, un Cyrus que Dieu a placé sur notre chemin. Des portes ont commencé à s'ouvrir. Une cassette a eu un certain succès alors qu'elle avait été enregistrée dans la plus totale simplicité. Et puis on a commencé à être invité à droite et à gauche dans toutes sortes d'églises et à partir tous les week-ends, arriver de partir 3 mois sans revenir avec un petit camping-car avec nos enfants. Nos amis s'en rappellent. Donc nous avons passé des années à voyager dans toutes sortes d'églises, de rassemblements, de milieux. Le Seigneur nous avait un peu donné cette parole, je veux que vous soyez tout terrain. Alors pour nous, eh bien, tout était bon. Pourquoi? Parce qu'on était ensemble et qu'on servait le Seigneur. Alléluia. Plus tard, je me suis retrouvé dans la ville de Toulon à avoir contact avec un pasteur qui avait besoin d'aide et j'ai été pasteur à ses côtés pendant 7 ans et c'était un peu comme David dans la maison de Saül. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris mon métier de pasteur et j'ai appris aussi ce qu'un pasteur ne doit pas faire. Alléluia. Nous avons pas mal travaillé avec des gens de la rue. À une époque, on avait ouvert une maison pour les accueillir. Nous avons vu beaucoup de gens venir au Seigneur. Hein. À l'époque, on descendait dans la rue, on savait plus quoi faire pour attirer l'attention des gens, des danses, des mimes. On faisait tout ce qu'on pouvait, alléluia, et des fruits étaient portés. Et donc, on a vu beaucoup de gens sortir de la drogue, beaucoup de jeunes qui cherchaient un sens à leur vie, se tourner vers le Seigneur. Et on a toujours gardé un cœur pour ces gens. Et puis, un jour, je suis monté sur la montagne qui s'appelle le Pharaon, qui se trouve à Toulon. J'avais l'habitude de monter prier régulièrement là-haut. Et là aussi, de nouveau, Dieu m'a parlé. Et j'ai vu, alors que je priais, défiler toute une vision avec les détails très précis. Et en redescendant de cette montagne, eh bien, je me suis rendu compte que la vision était merveilleuse, mais le contexte dans lequel je vivais ne me permettait pas de vivre cette vision. Dans cette vision, il y avait les femmes qui se levaient pour servir, pour prêcher, pour... Et dans le contexte dans lequel j'évoluais, eh bien, vivre ces rêves était impossible. Alors on a décidé, un beau jour, avec mon épouse, eh bien, de repartir à zéro tous les deux, et d'avoir le courage de tout laisser. J'avais un salaire de pasteur, eh bien, j'ai laissé mon salaire, et on a redémarré à zéro. Et le Seigneur a béni, parce que dans l'année qui a suivi, on a vu le Seigneur faire plus de choses que dans les 7 ans auparavant où j'étais pasteur. Y compris une personne dans notre famille qui n'était absolument pas au courant de ce qui se passait, nous téléphone dans la semaine où j'avais quitté mon salaire et nous dit « Le Seigneur vient de me parler, j'ai de l'argent qui est placé, qui me rapporte tous les mois des intérêts et il vient de me dire de vous envoyer une partie de cet argent tous les mois. » Et ça correspondait au double du salaire que je venais de quitter. Dieu est vivant. Nous avons vécu une résurrection en Madagascar, nous avons démarré des églises. Et donc, on ne regrette pas le choix, n'est-ce pas? Absolument. Et on continue.
Tout à fait.
Donc, il y a environ 11 ans, nous avons démarré cette œuvre qui s'appelle Souffle Nouveau. Nous ne prétendons pas avoir le monopole de ce genre de vision. Je crois que justement, Dieu, dans tout le monde francophone, parle à plusieurs de ses enfants, de ses serviteurs, pour les amener à vivre de nouvelles choses avec une nouvelle mentalité. J'ai accepté d'être qui j'étais pendant des années. J'ai joué le jeu du pasteur classique qui répondait aux critères que les gens voulaient voir en lui et non pas ce qu'il ressentait au plus profond de son cœur. Alors un jour, j'ai jeté un paquet de ses principes à la poubelle. J'ai décidé d'être moi-même et je me suis rendu compte que l'onction grandissait et quand on ose être soi-même, on aide des tas d'autres gens à oser être eux-mêmes. Et donc on a franchi des tas de personnes, même si on déplaît à beaucoup. On en a franchi beaucoup d'autres et il y a un choix à faire. J'ai commencé à écrire des livres. Lorsque nous voyageons, nous rencontrions beaucoup de gens dans les églises, mais qui étaient des gens malheureux, des couples malheureux, des gens qui étaient plutôt asservis par les choses auxquelles ils croyaient que libérés. Or la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et nous avons vraiment eu à cœur que notre ministère se transforme aussi en un ministère d'enseignement, écrire des livres, et nous réjouissons de voir les fruits que ces choses portent. Nous ne croyons pas que Dieu vient pour dépersonnaliser les gens, nous croyons qu'il vient au contraire pour leur redonner toute leur dignité et faire d'eux des gens qui sont bien dans leur peau. Et lorsque les chrétiens vont donner ce témoignage, nous allons voir plus de personnes venir à la lumière, parce que cette lumière, elle va briller. Donc l'œuvre de sanctification n'est pas une œuvre de dépersonnalisation. Et je crois qu'il faut de tout pour faire un monde. Lorsque nous voyons la nature que Dieu a créée, le même Dieu qui est le Dieu de l'Église, eh bien, il n'a pas créé en noir et blanc, il n'a pas créé avec que des arbres ou que de l'herbe. Il a créé plein de variétés, plein de couleurs. Donc je crois que c'est tout à fait anormal de venir au sein du corps de Christ ou dans une église de voir tous les gens qui se ressemblent. C'est ce qui se passe dans les sectes, comme les témoins de Jéhovah, comme les mormons, quand vous en voyez un ou deux plutôt, parce qu'ils vont par deux, vous les voyez tous. Mais au sein du corps de Christ, nous avons besoin de la diversité, nous avons besoin de la complémentarité et nous avons besoin de la créativité. Et pour cela, il faut accepter d'être qui nous sommes et ça demande de ne pas être lié par beaucoup de dada sur lesquels on bâtit souvent des ministères et dont l'origine, ce sont souvent simplement des versets mal traduits ou sortis de contexte. Alléluia. La parole de Dieu est là pour nous affranchir. Eh bien, nous continuons dans cette aventure. Nous croyons qu'un réveil passe par un changement de mentalité. Nous croyons que notre pays, eh bien, ne va pas être oublié par Dieu en matière de réveil. Et même qu'il sera peut-être à la pointe dans la fin des temps. Dieu a gardé son meilleur vin pour la fin. Et que le Seigneur cherche des hommes et des femmes pour se lever et pour marquer la différence. Il y a un merveilleux verset dans Malachie qui dit que dans la fin des temps, on verra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nous sommes supposés ne plus avoir les mêmes problèmes que les gens qui ne connaissent pas Dieu ont. Nous sommes supposés avoir une vie victorieuse. Et nous sommes supposés marquer la différence par notre vie de tous les jours, par notre vie de couple et tout ce qu'on peut trouver encore. Alléluia. Donc, le meilleur est à venir pour vous et pour nous. Et je vous propose de nous lever tous ensemble et de prier et de nous réjouir pendant quelques instants. Dans cette pensée, c'est que le meilleur est devant nous. Ce n'est pas le temps de se décourager. C'est le temps d'être rempli de courage. Ce n'est pas le temps de cesser de croire en l'Église. C'est le temps de continuer à y croire. Jésus croit toujours dans son Église parce qu'il a prévu de venir la chercher. Il a toujours prévu de venir la chercher. Nous n'avons pas reçu ni vous ni moi de fax ou d'email où Jésus dirait « Écoutez les amis, j'ai changé d'avis, je ne vous supporte plus, je ne reviens pas. » Donc, j'ai l'habitude de dire que tous les problèmes, toutes les incompréhensions, tous les adultères, toutes les médisances, toutes les maladresses, les nôtres et celles des autres qui ont pu entacher l'Église, n'empêcheront pas Jésus dans les temps dans lesquels nous sommes d'avoir une Église glorieuse. Amen. Alléluia. Alors je voudrais prier pour toutes ces personnes qui sont venues ce matin et les personnes peut-être qui entendent cet enregistrement. Je voudrais invoquer la présence et le ministère du Saint-Esprit sur vos vies. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ, sachant que ce n'est ni par force, ni par puissance humaine que les choses sont possibles, mais c'est par ton esprit. Si tu mets en place les temps et les circonstances, comme il est dit dans l'Ecclésiaste, cela change tout. Avec le temps et les circonstances, au bon moment, eh bien, le plus faible peut parvenir au plus haut sommet. Sans ce temps et ces circonstances, le plus doué peut ne jamais arriver à quoi que ce soit. Alors ce que nous invoquons ce matin, c'est le ministère du Saint-Esprit dont tu as dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. C'est le temps, les circonstances de Dieu dans nos vies pour que ce qui est impossible aux hommes devienne possible. Alléluia. Tu es le Dieu des miracles. Nous invoquons des temps nouveaux où les miracles vont se démultiplier dans la vie des bien-aimés. Alléluia. Dans la vie de cette Église aussi. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Si le diable a essayé de décourager plusieurs, nous brisons le pouvoir de découragement. Si certains ont leurs yeux fixés sur tout ce qui a été négatif, eh bien, ce matin, nous encourageons à lever leurs yeux. Alléluia. Regardez l'Église et l'avenir comme Jésus le regarde. Alléluia. te remercions de nous communiquer ton regard, ta pensée, ta parole ce matin par la puissance de ton esprit. Et nous recevons ces choses par la foi, nous savons qu'elles vont produire un fruit qui demeurera pour la vie éternelle au nom de Jésus. Amen.